She wanted to test her husband. She knew exactly what to do. A pseudonym to fool him. She couldn't have made a worse move. She sent him 70 letters, and he received them with a strange delight. Just like his wife, but how she was before the tears. And how she was before the years flew by. And how she was when she was beautiful. She sang the letter.
Chers amis, bonjour!
Tout est saturé d'un coup, comme d'habitude, on va baisser tous les micros.
Vous êtes bien avec vos deux animateurs préférés, et oui, on se sauce comme on peut, pour un nouveau numéro de votre rendez-vous ludique favori, le jeu des mille tickets.
Et aujourd'hui, nous avons l'immense joie de vous accueillir dans un des lieux centraux de notre magnifique école. J'ai nommé la Cafette. Ce haut lieu du militantisme normalien trouve peut-être sa réputation sulfureuse et sa tendance à l'action revendicatrice dans son passé minier. Il faut dire que son site est idéalement placé au cœur du parc naturel du Grand Gerland, perché sur les rives des deux fleuves qui l'abreuvent, le Rhône et la Chouffe.
Mais la Cafette est aussi renommée dans le monde universitaire entier pour ses championnats internationaux de baby-foot, dont le stade est le plus vieux d'Europe de l'Ouest, uniquement détrôné par l'UFC Estaminet de Bucarest. Installez-vous donc sur les fameux canapés, style 1664, et dégustez votre chocolat chaud en accueillant avec la plus grande ardeur possible les concurrents du jour.
Alors je suis désolé, c'était des canapés style Louis XVI 64. J'étais extrêmement fier de cette vanne, donc on va y aller.
Je suis désolé, j'ai sauté le Louis.
Et commençons directement par le jeu du dictionnaire.
Pour rappel, on vous donne un mot et trois définitions, à vous de trouver la bonne.
Et évidemment, une seule proposition par équipe. Alors peut-être qu'on va faire un petit tour de table des équipes tout d'abord.
Avec les noms.
À ma droite, qui avons-nous ? Micro rouge.
Alors ici, on est l'équipe Cringe et Châtiment.
Ok, donc Cringe et Châtiment ?
Exactement.
Ok.
Ah, c'est donc un roman de...
Avec Chérine, Vincent, Ursuline et Clara.
Ok, okay. Micro bleu, l'équipe Zemmour, c'est ça ?
Alors, non, l'équipe des presses agrumes.
Ok, presses agrumes.
On est l'équipe shit, GPT. moi, je m'appelle Jacob et mon partenaire très intelligent s'appelle Clément.
C'est 100% vrai.
Et la quatrième équipe ?
C'est vous. Est-ce que vous avez un nom ?
Alors, visiblement, c'est les Claudettes.
Les Claudettes, parfait.
On va monter un peu le son des Claudettes. Parce que c'est la première fois qu'on utilise le micro, donc vous allez peut-être avoir quelques ratés, mais on va vite arranger.
Donc, on commence par le premier mot.
Que veut dire pellucide ? Est-ce que 1, cela désigne quelque chose de transparent ou translucide ? Est-ce que 2, cela qualifie, dans le langage religieux, quelqu'un qui est arrivé à une compréhension supérieure des choses ? 3, cela désigne une couleur de robe de cheval.
Par ailleurs, je rappelle que les gens qui écoutent sur YouTube... sur YouTube peuvent participer dans le chat.
Les 10 spectateurs.
Donc, notamment Irma, si tu veux jouer, tu peux. Oui, l'équipe Presse Agrumes.
Nous, on pense que c'est la 3.
Donc, le.
C'est non.
Non. Oui, chez GPT.
C'est le numéro 1 selon mon acolyte Jacob.
Oui.
Extrêmement bien, c'était le numéro 1.
C'était la bonne stratégie de laisser. Presse agrumes, se presser le citron.
Un point pour l'équipe ChiGPT. Bravo, bravo.
Deuxième mot. Que veut dire kakemono ? 1. C'est la tenue traditionnelle japonaise, donc une longue tunique à manches amples et croisées sur le devant, portée par les garçons de 5 à 9 ans avant leur entrée dans l'école supérieure. 2. Une peinture ou une broderie japonaise plus haute que large et réalisée sur soie ou sur papier. Et 3. Le casque de guerre japonais. Oui. Oui. C'est une bonne réponse.
Non, mais j'aimerais préciser que c'est aussi le nom d'un roll-up. Quand on dit on a un kakemono, vous savez, c'est une grande présentation. Donc c'était
okay.
Ni le 1, ni le 2, ni le 3, mais aussi un 4.
D'accord.
Mais c'est aussi une action revendicatrice des gens de la cafette. On va aller kakemono.
C'est pas si faux. Mais donc l'équipe Crimes et Châtiments vient de gagner un point.
Et Maud nous a appris quelque chose, mais comme on peut pas lui faire confiance, on va pas lui donner de points.
Ensuite, troisième mot.
Troisième question, qu'est-ce que l'anatidaephobie ? Est-ce que 1, c'est la peur de se prendre un pot de fleurs sur la tête en marchant dans la rue ? Est-ce que 2, c'est la peur de se faire regarder par un canard ? 3, est-ce que c'est la peur de devoir participer à des modules FEADEP toute sa vie ?
Alors, pour remettre dans le contexte, il faut savoir qu'on a été en module FEADEP toute la journée. Donc forcément, ça a un peu teinté les réponses.
C'était quoi le mot ?
Oui.
Numéro 2.
Ah oui.
Les canards.
Oh là là,
effectivement.
Ils sont forts.
Donc l'anatidaephobie et la peur de se faire regarder par un canard. Un deuxième point pour l'équipe ChiGPT.
Attends, il y a une.
Alors Vincent Lavert et on a tapé très très fort sur la table. Personne nous a entendu.
En fait, ils ont fait coucou. C'est.
Voilà, ils vous ont fait coucou, sauf que nous on a tapé très fort sur la table.
Désolée. Mais la dernière fois, j'étais interrogé toi et pas tes voisins.
Alors, je voudrais juste préciser que, évidemment, c'est une peur tout à fait fictive qui a été inventée dans une bande dessinée dans les années 60, si je ne dis pas de bêtises. C'est à toi.
Ensuite, le quatrième mot. Que veut dire abat-reluire ? Il s'agit soit d'une technique de reliure qui consiste à rabattre le tissu sur le papier avant de le piquer dans la couture. 2. Une position sexuelle dont nous vous épargnerons les détails parce qu'il est encore que 21h44. Et 3. Un abat-jour pour les vieillards.
1-1-1. Pardon.
Et, on a et... une proposition.
Alors déjà, l'équipe à notre droite a essayé de corrompre le jeu.
C'est très cringe comme intervention.
Et nous, on pense que ça va là l'équipe, je sais pas comment il s'appelle, mais.
GPT.
Voilà non, l'équipe.
Tu t'adresses au premier du classement là, s'il te plaît.
Je suis pas sûre. Bref, nous on pense que c'est la
3.
La 3.
C'est très très bien, bien joué.
Bien joué, c'est une bonne réponse.
C'était la 3.
C'est
à croire que vous piochez au hasard parce qu'il y avait.
Donc, ils ont eu les réponses, non ?
Égalité entre Crime et Châtiment et ChiGPT.
Les autres équipes sont à zéro.
Oui, et non, d'ailleurs, il y a des réclamations, mais le script de ce jeu n'a pas fuité. Donc aucun moyen de connaître les réponses.
Et sur le chat, il y a personne.
On est juste très intelligent chez Cringe et Châtiment.
Énormément de vocabulaire.
Bonsoir Joseph, Marie te salue.
Exactement.
Alors, attention. qu'est-ce que l'hippopotomonstrose équipadéliaphobie? Hippopotomonstrose équipadéliophobie. Pardon, j'ai oublié un O. Ah, pardon. C'est la peur des mots trop longs, ce serait un peu ironique. La peur des retards de train de SNCF, ce serait tout à fait logique. La peur de voir un hippopotame avec un long membre, ça marche qu'en Afrique.
C'est la réponse 3.
C'est faux. Oui, il y avait d'abord ChatGPT qui a...
Il y a une bière qui est en train de couler.
ChatGPT a d'abord levé la main et pas fait du bruit strident comme l'équipe de Jane Austen bourrée.
C'est numéro 1.
C'est tout à fait le numéro 1. C'est la peur des mots trop longs.
Et c'est ironique, je me permets de préciser.
Oui.
Ah ouais.
C'est tout à fait ironique.
En plus, ce qu'il faut, c'est que Clément écoute ce qu'on dit. C'est vraiment...
Donc, rappelez-vous, l'hippopotomonstroskipadéliophobie, et bien la peur des mots trop longs.
Et dernier mot avant qu'on passe à une autre forme de jeu. Qu'est-ce qu'une pive?
Une autre forme de jeu?
Oui, parce qu'après, on fait le jeu des multi-quais.
Il y a des questions, c'est le jeu du dictionnaire.
Donc, qu'est-ce qu'une pive? En Belgique, c'est un style de bière. Au Canada, c'est une insulte hétérophobe. Ou en Suisse, c'est une pomme de pin. Oui, Clément.
C'est une bière en Belgique.
Non.
Non. D'abord,
réponse 3.
Effectivement.
Oui, on
c'est bien joué, c'est la pomme
premier
de
point
de
des
presse-agrumes.
Pour les presse-agrumes. C'est moche.
On laisse quelques points aux équipes qui sont un peu en difficulté.
C'est un peu comme la politique sociale du gouvernement. Quoi.
Exactement, on prend exemple sur le gouvernement. Votre cher gouvernement.
Et donc, c'en est fini pour l'instant du jeu du dictionnaire. Et maintenant, on vient avec le classique, le jeu du des multi-quais.
Et on voudrait d'abord dire que l'équipe des Claudettes est bien, bien silencieuse. Hein. Il faudrait peut-être participer. Ah bah, alors que c'est les seuls à avoir la petite sonnette symbolique de cette émission.
Dès qu'il y a plus Claude François, ça avance moins vite, les Claudettes.
Ça avance très moins vite. J'ai très moins vite. Waouh.
Elles sont à contre-courant du jeu.
Et on va commencer tout de suite. Première question, écoutez bien, est-ce que tout le monde est concentré? Première question. Quand t'as vécu Valentin de Terni, le Saint-Valentin?
Oui, les Claudettes.
Les Claudettes. Cette année-là.
Non, les Claudettes,
alors,
on vite.
C'était l'année 62.
L'année 62,
l'année
pas du
62.
Tout.
Que les Claudettes ont compris qu'il fallait jouer, mais elles n'ont pas compris le jeu.
Orgueil et préjugé.
Pas du tout,
2.
Non, mais s'il vous plaît, respectez un peu notre nom d'équipe, qui est châtiment 13e siècle.
Non.
Alors,
oui, ouais. ChatGPT.
J'allais dire le 11e siècle.
Non. Pas du tout.
Avant ou après?
Au 18e siècle.
Absolument. Bon, avant, alors, bien.
17e siècle. Vu que tout le monde a fait une proposition, on va prendre la proposition la plus proche.
On va relancer une proposition pour voir qui aura la plus proche.
Non, c'est bon, on prend les 4 qui ont été faites.
Alors.
Ok, les 4 qui ont été faites.
Du coup, les Claudettes ont un point.
Les Claudettes ont un point.
Bravo, c'était
Valentin de Terni
a vécu au 3e siècle.
Était un évêque de Rome.
Mais 62, c'était l'année 62.
C'était l'année 62.
Non,
clairement, l'année 62, c'est l'année 62.
Il a vécu exactement en 842.
Absolument pas, c'est vraiment le 3e siècle.
On a vraiment donné une info, Clément.
Ah, pardon, j'ai pas suivi.
On
est
prêts, non?
Non,
c'est le 3e
siècle. Oui,
il vient d'apparaître.
Donc, on clôt les débats. Deuxième question. En quelle année le Mon Chéri,
c'était dégueulasse,
le fameux chocolat à la liqueur de cerise,
on écoute.
Ah non, c'est horrible.
Oui. En quelle année le Mon Chéri, qui est donc un fameux chocolat à la liqueur de cerise que seuls les papilles aiment, a-t-il été commercialisé pour la première fois? Oui.
1924,
je sais. 1924,
ok.
Non. Oui.
1900.
Non. Non, là-bas.
Les Claudettes.
Les Claudettes.
C'est nous. Oui, je sais pas.
1952.
62.
Non.
Non, 1965.
Et donc, c'est encore les Claudettes qui ont un point.
Attends, non, elle a dit quoi?
1950.
Non, vous avez dit 1950?
Oui.
Ok, d'accord, bah c'est bon.
C'était quoi?
C'était en 1956.
Ah, oui, parce qu'il y avait l'anniversaire.
Vous avez dit 62.
Moi j'ai dit 52.
Ah merde! Donc c'est chiffre GPT-4.
Ils ont dit 62. C'est égalité.
62 en France.
On a dit 52?
Vous, c'était
52. Elles ont dit juste 52, si je me permets, pas 1952.
On va arrêter avec ça.
Donc, je suis pas sûre de la victoire.
Mais de toute façon, on le voyait sur les paquets des Mon Chéri, tu sais, il y avait l'anniversaire.
Un point chacun.
50 ans de Mon Chéri, machin.
Ah non, mais moi je suis pas ça, alors j'adore ça.
Ah bon?
Oui, du coup, on a le point.
D'accord.
Un point chacun.
Ok.
Un point chacun?
Décision du
point chacun.
Claudette et Oshit.
Troisième question.
Alors, troisième question, qu'est-ce que le syndrome de Paris?
Ah, le syndrome de Paris, je sais. C'est les Japonais qui vont à Paris et qui découvrent qu'en fait Paris c'est nul. Enfin, les Asiatiques. C'est et pas... en fait, ils sont déprimés, ils tombent en dépression. C'est des Chinois asiatiques, je peux élargir.
Moi, un point pour Asie.
Excusez-moi. Est-ce que je peux intervenir?
Ce sont des gens qui viennent d'Asie, quoi. C'est là.
S'il vous plaît.
Europe. Réclamation.
Non, mais excusez-moi, je voudrais juste dire quelque chose.
Alors, on va m'envoyer enlever des points. Ouais.
On se calme.
Excusez-moi.
Alors, d'abord, chez GPT, Clément avait une réclamation.
Alors, réclamation. Il a quand
c'est
même
quoi
dit,
ce masculinisme, là?
C'est les Japonais.
D'accord.
C'est les Chinois, c'est bon, bref, les Asiatiques.
Non, mais...
Quelle honte.
Je me suis emporté.
Je passe outre sur le fait qu'il y ait très peu d'hommes dans cette pièce et que vous leur donnez exclusivement la parole. Mais je voudrais également dire que c'est quoi cette loi du plus fort qui règne dans cette pièce? Nous avions la réponse depuis le début. Quand tu as dit syndrome, nous avions la réponse. Donc je pense qu'on a droit à notre part du gâteau.
Réponse, voilà. Clara a tapé sa bière comme d'habitude extrêmement tard, alors que Léopold a dit...
Mais justement, Léopold il s'est agité comme un dératé, alors que nous, tout simplement, on a
sur
tenté la bière.
C'est la revenue, évidemment.
Sur le comptoir.
C'était peut-être pas ça, hein.
Bon, du coup, je propose qu'on annule cette
réponse. C'était en effet la vérité. Et si je puis rétablir une vérité, vous êtes offusqué au seul nom de l'évocation de la nationalité japonaise, mais il se trouve que les 10 dernières années, seuls des Japonais ont été effectivement victimes du syndrome.
Mais le problème, c'était pas ça.
Le problème, c'était l'amalgame qui suivait.
C'est comme si j'avais dit des Français, des Anglais, bref, des Européens.
Mais tu l'aurais jamais dit en réalité.
On annule le point.
Mais c'est un vrai.
C'est un peu excessif quand même. Les presse agrumes n'ont aucun point.
Ok, on vous accorde.
Les presse agrumes ont quand même plus intelligents et plus nuls.
On vous accorde un demi-point. Arrêtez de hurler dans les micros. On vous accorde un demi-point.
Bravo,
vous avez. Et on passe à la question suivante. Donc il y a une question qui a été écrite pour les linguistes. Que signifie Kamasutra?
Ma grand-mère, elle savait.
Donc personne de...
Léopold, on n'a pas à avoir ce genre d'enfant.
C'est parce qu'elle avait un livre de Kamasutra chez elle et ma soeur quand elle était
petite. Elle te lisait quand t'étais petite, genre.
Elle avait dit c'est un beau livre avec plein de belles images. Mais je ne sais pas...
Oui, l'équipe chez GPT. Oui.
Est-ce que ça voudrait pas dire position sexuelle en sanskrit?
Non. Il y a une bonne info, c'est que c'est du sanskrit.
Ouais.
Un bon point pour l'équipe chez GPT, mais on n'a pas la traduction. Pas.
Un indice?
Amour,
un indice, il y a un terme philosophique et un terme érotique.
Et un deuxième indice, la fin, donc sutra, est souvent utilisée en yoga. Ah
bon. Ouf là.
Donc c'est un mot qui est récurrent, qui désigne pas nécessairement ce dont on parle, mais plutôt une forme, un type de parole.
Oui.
Ici on tente position de l'amour.
Non. Bien tenté, mais c'est non.
Oui,
chérie. Moi je suis disciplinée. Moi je dirais voix du plaisir. Voix V-O-I-E.
Oui, mais non. Dommage. C'est le temps est écoulé.
Voilà. Je pense qu'on arrive à la fin de cette question. Donc Kama veut dire désir et Sutra aphorisme. C'est donc les aphorismes du désir.
On utilise souvent le mot aphorisme en yoga.
Sutra, ouais. Okay. Oui, il y a un livre de yoga qui présente des sutras.
Alors personnellement, ça fait plusieurs mois que je fais du yoga à l'ENS et j'ai jamais entendu cette expression.
Une autre réclamation islamo-gauchiste.
Je pense qu'on arrête avec les réclamations et qu'on passe à la question suivante.
Cringe GPT. Du coup, c'est à moi.
Respectez un peu notre nom d'équipe, s'il vous plaît.
Oui, bien sûr. Quelle production culturelle a rendu populaire le terme friendzone?
Quelle quoi?
Production culturelle.
Oui.
Pourquoi tu...
Les Claudettes.
Friends.
Oui.
C'est exactement ça. Bien joué.
Bravo, oui, bien sûr.
C'est un hasard qui est bien heureux.
Parfait. Et donc, on peut passer à la question suivante. Alors, c'est une question qui est inspirée d'un article que j'ai trouvé sur l'Internet. Quels sont les mots d'amour les plus touchants?
On devrait en donner plusieurs, alors.
Parce que, enfin, les mots, c'est des expressions d'amour.
Chaton, gribouille...
Enfin, c'était sur les lettres d'amour. Oui.
Ah, ce ne sont pas des mots, ce sont des signes qui sont les plus touchants. C'est beau.
Mais il faut donner quoi, une expression?
Tu pourrais avoir un pullover, mais c'est vraiment des mots.
Alors juste, est-ce que vous pouvez préciser un peu ce que vous appelez par expression?
Alors, l'exemple donné,
des formules.
Ce sont des formules, des phrases.
Je t'aime.
Non.
Bah, c'est le plus touchant, non?
C'est pas le plus touchant.
Oui, Jacob.
Si on dit en allemand Atomlos durch die Nacht, ça c'est très. Ça me touche beaucoup.
C'est agressif, plus qu'autre chose.
Non, c'est pas du tout agressif. C'est.
La crème en
allemand. Voulez-vous
coucher avec moi
ce soir? La crème.
Très belle com dans l'équipe.
Alors, je pose d'avance une réclamation dans le sens où je vois pas ce qui peut être plus touchant que je t'aime.
Je fais une story.
Eh bien, en fait, veux-tu donner la réponse à cette question?
Je peux vous donner la réponse. Oui. Donc, on a vraiment une source sérieuse qui est le site Amour et Bijoux.
voilà, tout de suite, le standing est donné, quoi.
Pour lequel les mots d'amour les plus touchants sont ceux qui expriment le manque ou le sentiment d'affection et d'amour inconditionnel.
Par
et
exemple.
À ce moment-là que ça vient.
La vie de ce monde, back.
Le manque, atomlos, sans souffle. En de souffle.
Non, la phrase qu'il a citée en allemand, ça veut dire à bout de souffle, ce qui exprime le manque en allemand, mais vous n'avez pas compris.
Exactement.
En tout cas, c'est mes exemples.
Attends,
les exemples du site Amour et Bijoux.
C'est très sérieux. Hein.
C'est très sérieux, au demeurant. Qui était Tu me manques quand je ne suis pas avec toi. Je t'aime pour ce que tu es. Je t'aime chaque jour plus que le précédent.
Mais à chaque fois, il y a je t'aime.
Et
j'avais
préféré,
raison, pépite.
Je te choisirai, même dans une autre vie, parce que mon amour pour toi est éternel.
Mais toi, on était censé deviner ça, c'est impossible.
Et on va.
Alors, encore une fois, je pense qu'on a gagné parce que nous, on a dit je t'aime. Et ça revient dans chacune de ces expressions.
Et
le atomlos dans tout ça.
J'ai deux choses à dire. On peut accorder un point à l'équipe cringe
et châtiment.
J'arrive pas.
Il y a quelqu'un qui a gagné, c'est nous.
Il est vrai que je t'aime. Et je propose la palme du
germaniste. Après, pour la Saint-Valentin, ça peut être cringe et sentiment.
Et je tiens à dire que Paco Manso propose comme mot très touchant spinescence. Et Noé Vernot dit xoxo.
J'aime beaucoup spinescence.
Alors, quoi là? Question pour nos chers amis qui aiment les lettres classiques, qui aiment les dieux mythologiques. Pouvez-vous citer le nom d'au moins 4 dieux d'amour? N'importe quelle
les Claudettes.
N'importe quelle mythologie confondue.
5.
Aphrodite.
4.
Oui.
Eros.
Oui.
Vénus.
Oui.
C'est pas exactement les mêmes.
C'est pas les mêmes. Dieux d'amour.
Mythologie différente.
Combien? 4 ou 5?
4. Il en manque 1.
4. D'amour.
Oui.
Ouais, attention, 5, 4,
les Claudettes s'effondrent.
3, 2,
le choc.
Un échec.
Ah, on a dit Cupidon. Non, on l'a dit.
Il en manque un.
Non, c'est bon. Non, c'est bon.
Il en manque un, non?
Non, non, il en a 4. Il en fait 4, c'est parfait.
En plus, on me l'a soufflé, Cupidon.
Ah, il en fait les pas 5.
Oui, non, effectivement, Lynn l'a dit avant.
Non, non, c'est des mythologies différentes, Jacob. C'est pas parce que c'est des transcriptions que c'est pas des mythologies différentes. Et on aurait pu penser aussi, par exemple, à Epona chez les Gaulois, à Kamaveda chez les Hindous, à Tuershen chez les Chinois, à Yoku au Japon, à Ashtarte chez les Carthaginois, Ixchel chez les Mayas ou Xochipilli chez les Aztèques. Voilà, j'ai fait des recherches.
Il y en a plein, c'est impressionnant.
Une question un peu plus simple et un peu plus spécifique aussi. Avec qui Lupin se marie-t-il à la fin de la saga Harry Potter?
Tonks.
Oui.
Très très bien. Tonks. Très bonne réponse.
Ah, je suis perdu là, on est au quatrième.
Alors je tiens à dire que l'équipe Claudette a quand même un avantage puisqu'elles ont une sonnette qui est très facile. Nous on est obligés de faire avec les moyens du bord comme on dit.
Et on a eu la réponse en même temps.
Voilà.
Elles sont allées hyper vite. Qui a dit Dolores Sombra.
Non mais ça. Mais ça pour une annoncer, question, je ne suis pas dans notre équipe.
Alors. Une question facile de Jean-Claude dans la Drôme. Quelle est la fonction de Cupidon dans le jeu Loup-Garou?
Oui.
Et oui.
Il fait des couples.
Il détermine les amoureux qui vont mourir en même temps.
Oui, c'est une très très bonne réponse.
Ah, ils
font
trop de
bruit.
Ils ont été hyper rapides.
Exactement, on est juste vifs d'esprit.
C'est pas
de notre faute si vous êtes un peu lent.
Tierce-le.
C'est un tierce-lieu.
Ensuite.
Comme les... D'accord.
les tierces.
Quand est paru Roméo et Juliette pour la première fois?
Non.
Je sais pas.
Non,
oui, non, en vrai.
Non, on va te donner les presses agrumes.
Ouais, les presses agrumes, ok.
Au 16e siècle.
Attends, mais vous avez.
Ouais,
mais...
C'est très vague, hein.
Est-ce qu'on peut avoir une date plus précise?
16e siècle, ça va être 100 années.
Au 16e siècle, en 1660.
Oui, t'as dit 16e siècle,
en pardon, oui, mais parce que je fais de l'histoire.
La parole passe à l'équipe des Cris du Châtiment.
1543.
Ok. Non, c'était les connaître.
Mais c'est pas grave, de toute façon, tout le monde va donner.
J'ai pas de signe.
Vas-y.
Oui, allez-y.
Déjà à Vérone.
Moi, je donnerai le.
Déjà à Vérone.
C'est pas la question.
En 1662.
D'accord. Et.
1580.
Et donc, c'est l'équipe chez GPT qui gagne un point.
C'est combien ?
Roméo et Juliette a été publié pour la première fois. Publié. En 1597.
Ah ouais. Oh, on n'était pas si loin.
Vous n'avez pas été très précis dans les termes dans la question, si je me permets. Ouais.
Oui, mais vous êtes quand même dernier, quoi qu'il arrive. Parce qu'il a été écrit en 1591. Donc,
on a dit 1543.
Oui, mais j'ai répété, gagné quand même.
On a dit Vérone, on ne peut pas avoir un point bonus géographique.
Absolument pas. C'est zéro. Et d'ailleurs, tant qu'on y est, quels sont les noms de famille de Roméo et Juliette?
Ah oui, c'est Jacob, vas-y.
Du Capulet.
Oui, voilà.
Ouais, alors c'est dégueulasse puisque un membre de Cris du Châtiment.
Ah oui, mais ça c'est pas un problème. On vous avait pas interrogé. Vous donnez les infos si vous voulez.
Mais certes, sauf que faut savoir que la disposition est très bancale et tous les membres de l'équipe.
Toi aussi, tu es très bancale.
Vous êtes pas avoir accès à la manette. Deux doigts de perdre un point.
Non, mais en fait, on aurait dû avoir le droit à un tiers temps. Et on ne nous l'a pas accordé.
On sait ce qu'on veut.
C'est quoi votre
blague?
J'ai pas.
Vas-y, attends.
Clara.
Alors, c'est on se calme, on reprend son souffle et on attend la question suivante. Quand est-ce qu'une femme a pu devenir gondolière pour la première fois de l'histoire?
Oh.
Nicolas Dette.
À Venise et.
Oui. On a compris que t'aimais bien la géo, mais maintenant, faire donner des dates.
Hein. En 1800.
Non, j'aurais dit plutôt. Non, peut-être pas. Vas-y,
donne. En 1862.
Ok.
Non, on garde la réponse.
En 1980.
On garde la réponse, ChatGPT.
Je suis sûr qu'il manquait de gondolier.
1750.
Hein. Ok.
Est-ce que nous, si on peut avoir une réponse?
Bien sûr.
Bah oui.
Morto.
Quoi?
Liberto.
Ça a pas l'air très sûr.
1602.
Eh bien, la bonne 1602. Réponse va à l'équipe Presse Agrumes, vu que c'est en 2009.
Ah bah voilà.
Oh. Wouh. Voilà.
Enfin, Aya.
Enfin, je sais pas pourquoi on applaudit.
Ouais. Ouais. Syndicat des gondoliers.
Est-ce que. Attention, question. Il reste deux questions. Là, on est vraiment sur la dernière aile droite pour gagner.
Et les points alors?
On va sur deux questions, on se dépêche. Est-ce que je ressemble à Ben Affleck? Oui.
Oui, beaucoup.
Claudette, pardon.
C'est vrai que c'était nous.
Alors, de notre angle, nous, on te voit de profil.
Ouais.
Oui.
Ok.
Alors nous, on te voit de face et vraiment c'est frappant quoi, les yeux,
d'accord,
le sourire.
Moi je dirais non.
Ouais, c'est une bonne réponse.
J'ai eu hier Jennifer Lopez au téléphone, elle m'a dit qu'elle voyait aucune différence.
C'est quand même les presses agrumes. Il n'y a aucune référence ressemblance entre moi
Jennifer
et
Jennifer Lopez au téléphone.
Non mais Yulène, écoute pas les rageux. Hein.
Soyez un peu charitable avec les presses agrumes enfin. Et dernière question qui va un peu...
Qui est la meilleure.
Qui est la meilleure et surtout qui nous met dans l'élan du prochain jeu qu'on retrouvera plus tard dans la soirée. Quel est le vrai prénom de Carlos?
Le chanteur?
Le chanteur, Carlos
Je
Dolto.
La cantine.
Oui, chez GPT. Il s'est juste souvenu qu'il était Carlos.
Il s'appelle pas Edmond.
Non, pas du tout. Oui.
Jean. C'est pas Eustache, mais c'est quelque chose comme ça.
Jean-Eugène, Jean-Eustache, un prénom composé avec...
On est sur la bonne voie,
c'est
on donne un demi-point. Un demi-point.
Un demi-point.
Il y a des propositions.
C'est un nom latin de végétal sauvage.
Jean-Michel.
Un nom latin
Claudette.
Jean-Édouard.
Végétal sauvage.
Lynn, à ma droite, proposait Malcolm.
Pas du tout.
C'est Jean-François.
C'est genre Jean Polyphème ou un truc comme ça.
Ouais, alors franchement, vous allez vraiment avoir un point parce qu'on voit que vous avez l'info et c'est fou.
Mais d'où tu sors ça?
il y a deux jours en cafette.
Cringe Châtiment est une équipe très cultivée.
Mais donc, Carlos s'appelle...
qui propose Jean-José.
Ok. S'appelle Jean Chrysostome.
Voilà. Wow. C'est entre Chrysanthème et
voilà.
Chrysostome.
Donc,
faites ce que vous voulez cette info.
J'espère qu'on peut, on peut tous finir cette émission par le fait que Carlos, non, plutôt que Jean Chrysostome Dolto, est le chanteur de Big Bisou sous le pseudonyme Carlos.
Pratiquant.
Exceptionnel comment.
Ah oui, je savais pas ça.
Allez.
Oui, oui, Carlos, le chanteur d'Oasis. On a la ref, papa.
Du coup, alors...
C'est l'heure des calculs.
C'est l'heure des calculs. Qui va gagner ?
Profitez-en. Et donc,
pour nous suivre sur Transistor.
L'équipe presse agrumes à 4 points. Au pied du podium, les équipes, les Claudettes et Cringe et Châtiment ont 5 points.
Oh. Et les grands vainqueurs sont...
L'équipe ChitGPT avec 7 points.
Comme par hasard. Comme par hasard.
Merci beaucoup.
Le lobby. Le lobby... Des hommes 6.
Oh. C'est un peu facile.
On entend la délation du...